l'Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Si vous n'étiez pas avec nous dans la première partie, regardez le journaliste d'investigation, écrivain, documentariste et plasticien Denis Robert en novembre dernier.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Session de rattrapage aujourd'hui dans l'Atelier des médias. Au mois de juillet a été mis en ligne un web documentaire et a été diffusé aussi sur France 4 un documentaire en 4 volets. Ça s'appelle Journalisme 2.0, enquête sur le néo-journalisme. On n'avait pas pu avoir son auteur à ce moment-là, Denis Robert. On se rattrape maintenant. Au début de la version documentaire, donc télé du film, vous dites « J'ai eu envie de faire ce film en participant à un jury de sélection du master de journalisme de l'Université de Lorraine. Ça veut dire quoi, être journaliste aujourd'hui? Ça, c'est la question que vous posez. Ça s'enseigne comment, cette matière, aujourd'hui? Ici, nous aurons des embryons de réponses.
Oui, la première année où le diplôme de web journaliste a été créé à Metz, donc sont des amis à moi, donc le
Arnaud Mercier,
Jean-François Diana qui est prof à la fac, et donc ils m'ont demandé d'être membre du jury, et je me suis retrouvé avec 16 étudiants qui présentaient chacun le travail d'une année. C'était 16 web documentaires, et j'ai trouvé que c'était formidable parce que à travers leurs travaux et leurs regards conjugués, passer en un moment très court, une unité de temps et de lieu, tous les débats qui agitaient la France. Et je me suis dit, là, il y a une matière à film, on l'a jamais fait. Et pas du tout à, parce qu'il y a eu une méprise, j'ai eu beaucoup de mal à monter ce projet. Et pas tellement à le monter, d'ailleurs, pas pour le budget, même si on a eu un budget minus, mais c'est mes rapports avec la chaîne qui ont été très compliqués. Parce que eux, en fait, me tiraient un peu vers la télé-réalité. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça du tout, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est une histoire compliquée, mais j'ai vraiment beaucoup souffert, comme, c'est d'ailleurs plus ma fille, Nina, qui est la co-réalisatrice du film, elle a beaucoup plus travaillé que moi. Elle a été beaucoup moins, elle a été moins payée. Elle a été même pas smicarde. Elle a travaillé 3 ans. Elle a eu un énorme travail de montage, de remontage, etc. Et on a été maltraité par cette chaîne pour une raison simple, c'est que j'ai signé le film avec mon ami et producteur Christophe Nick, avec Bruno Gaston qui était le patron de France 4, et il connaissait mon travail. Et j'avais fait Journal Intime des Affaires en cours, donc c'était un film en immersion dans une école de journalistes qui réfléchissait sur le devenir du journalisme. Il se trouve que, comme souvent à la télévision, le mec a été, Bruno a été viré, il est parti, il a été remplacé par quelqu'un, Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des gens qui avaient plus du tout envie de ce film-là, et qui étaient barrés sur les télé-réalités à la con, et qui se sont dit chouette. Je schématise, en gros, on peut refaire, comment ça s'appelle, toutes les émissions à la noix sur la cuisine, la master, tout ça, on va le faire avec les journalistes, quoi. Et donc, évidemment, on n'a pas pu s'entendre, quoi. Alors, ceci dit, ça a été un travail de longue haleine. Et puis, il y a Gilles Cayatte, qui est un de mes amis réalisateurs, qui a repris tout ça, parce qu'avec la chaîne, les rapports étaient plus que tendus, et qui en a fait un travail très honnête. Et moi, je suis très content du résultat. Mais le résultat est le fruit d'une équation très compliquée. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire avec Nina ce web documentaire, et Tristan d'ailleurs qui nous a aidé, et ça a été un travail de chien, ça aussi. On l'a financé en tant que producteur, là je perds de l'argent sur ce projet, mais je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est un long seller, quoi. C'est-à-dire que il a pas cartonné quand c'est sorti,
le web documentaire,
ouais, le web doc, et il est vu, revu, il y a un bouche à oreille qui fonctionne, tous les étudiants non journalistes ont dû le voir déjà, et il a un temps de il y a eu un papier dans les Inrocks cette semaine qui a comptabilisé quand on va sur un webdoc, on reste 2-3 minutes d'une manière générale, parce qu'on compte les connexions, et le nôtre, c'est 7 minutes 31, et c'est le record de France, donc c'est pas mal.
Il y a 4 épisodes donc dans la version documentaire, dans la version télé, qui suivent l'apprentissage des élèves, leur confrontation au terrain, leurs échecs aussi, leurs réussites, leurs dilemmes. Je pense à la jeune Asma qui avait pour projet de réaliser un web documentaire sur des jeunes convertis à l'islam, des jeunes filles converties à l'islam, et qui se retrouve quasiment le jour de sa présentation devant le jury avec 3 de ses témoins qui refusent que ce soit diffusé, et qui refusent même que ce soit montré à la salle parce qu'il y a des hommes dans la salle, leur témoignage. Et il y a toute une discussion. Je me souviens que Jean-Paul Lepers, qui est un des professeurs, ouais, intervient. Il y a aussi évidemment Arnaud Mercier. Et entre les profs qui sont pas d'accord, ouais, est-ce qu'on a le droit de le regarder? Est-ce qu'on a le droit de le diffuser? Mmh. Est-ce qu'on s'en fiche de ce que pensent les filles?
Ben c'est exactement, je suis content que vous parliez de ça, parce que c'est exactement pour ça que j'ai eu envie de faire le film. Parce que j'allais dire, c'est un mauvais jeu de mots, mais ma religion est pas faite, moi, sur un sujet comme ça. Parce que même si je trouve que ces filles déconnent complètement à pas vouloir que des hommes regardent, voilà, c'est aussi leur droit elles ont un droit à l'image, etc. Moi, personnellement, j'aurais quand même passé les images, puisqu'il y a un contrat de départ que la journaliste a respecté. Mais Asma, elle était dans une espèce de grande rigueur par rapport à ces gens-là. Elle était soutenue d'ailleurs par Jacques Gandebeuf, qui était un vieux journaliste de Républicain Lorrain, et qui lui a dit, il la comprenait. Et
en fait, moi, j'ai trappé un nombre incalculable, oui, de sujets, parce que les témoins m'ont dit, je veux plus,
oui,
être cité.
Mais vous voyez, quand vous racontez une histoire comme ça, ben, vous allez beaucoup plus loin qu'un simple article, parce qu'à la fois, vous parlez de l'islam, vous parlez de la situation des femmes et des hommes dans l'islam, et vous parlez du journalisme. Donc, c'était ça, mon idée. C'était, en le suivant chacun d'eux, il y en a un qui fait un webdoc sur la guerre d'Algérie et sur tout ça. Donc, il y a un truc sur le football féminin. Et c'est que des sujets intéressants, moins par le travail qu'ils font, même si le travail est intéressant, que sur la manière dont ils le présentent. Et c'est tout leur cursus d'une année, quoi. Et on a 200 heures de rush sur un truc comme ça.
Et on voit bien à quel point c'est une leçon de journalisme, finalement, pour Asma, qui finit par dire, mais j'ai peut-être cédé un peu trop vite parce que je m'identifiais à ces ouais, jeunes filles. Elle explique à demi-mot qu'elle était peut-être un peu d'accord avec le fait qu'elle ne voulait pas être vue, être montrée.
Oui, c'est ça. Donc ça leur voilà. Et puis il y a un autre problème qui est posé quand à un moment donné l'une de ces étudiantes va filmer une secte, une maison qui appartient à une secte. Le propriétaire de la maison ne veut plus que sa maison soit filmée, donc elle sait pas quoi faire. Enfin, donc il y a plein de cas comme ça très concrets. Et je pense que très franchement c'est un, et je le vois bien par les retours que j'ai, c'est un matériau formidable pour des étudiants en journalisme.
Et il faudra probablement un avocat des médias la prochaine fois dans le jury pour avoir une opinion.
Oui,
un peu
mais
plus.
Il y en a cette année.
Les journalistes sont eux aussi un peu perdus entre ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Juste après, il y a cet extrait du film qu'on va écouter ensemble, qui est assez éloquent, et on pourra dire quelques mots après.
À quelques jours de la fin de l'année universitaire, Asma, Sarah, Xavier et les journalistes de la licence ont organisé une rencontre avec une star de la politique.
Au fur et à mesure de l'ordre, là.
Arnaud, c'est bon pour France 3.
Une star qui fait peur aux journalistes. Jean-Luc Mélenchon apparaît beaucoup moins agressif et tordu qu'il ne l'avait imaginé. Animer un débat public, une autre facette de ce métier.
C'est lesquels, ceux-ci ?
On a préparé des questions.
D'accord.
On va les poser suivant l'inspiration.
D'accord. Alors moi, je vous préviens, je suis bon élève. C'est-à-dire, si vous me dites ces questions, je réponds aux questions. Mais après, vous vous étonnez pas si j'ai pas répondu aux questions que vous m'avez pas posées. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah ouais, bah je le prends, ok.
Toi, c'est pour toi, non ?
C'est ça, pour moi. Ça va être absolument pas. Non, ça va aller, ça. Bon.
Vos rapports avec les journalistes sont émanés de prises de bec avec plusieurs journalistes des médias nationaux. Entre autres, Nicolas Demorand, qui est, je vous cite, acteur de l'appareil idéologique dominant, Anne-Sophie Lapix, Arlette Chabot et Laurence Ferrari, que vous qualifiez de perruche, ou encore David Pujada, pour vous, au mieux un laquais, au pire, un larbin. On vous a également entendu en 2009 parler de sales corporations, voyeuristes, vendeuses de papier, ou encore de métiers pourris, de journalistes à petite cervelle. Vous dénoncez alors l'emballement médiatique qui s'ensuit comme faisant partie d'un complot contre vous. Vous expliquez également que les jeunes journalistes, aux jeunes journalistes du CSJ, qu'ils font partie ou feront partie d'une caricature morale et bien-pensante.
Ça, c'est vrai. Avant même toute discussion sur qui possède un média, à qui il cherche à faire plaisir, il y a d'abord le fait que ceux qui le font ne sont pas en état de résister, ne sont pas en état d'avoir une critique ouverte à l'égard de leurs propres médias, parce qu'ils doivent manger.
Ouais. C'est pas mal que je réécoute, j'avais pas réécouté depuis longtemps. Mélenchon est très bon. Moi, en plus, je le connais.
Il était candidat à l'époque,
ou ouais, il était
encore candidat, ou c'était après?
C'était avant la campagne. Je sais même pas si c'était déclaré. Je pense même pas. C'était avant la campagne. Mais donc moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré à ce moment-là et j'ai voté Mélenchon. Moi, hein. Mais je le savais pas. Je le savais pas. Enfin, je suis pas un fan énamoré, loin de là, parce que je trouve qu'il dit beaucoup de conneries aussi par ailleurs et qu'il a pas une attitude. Il y a des tas de points sur lesquels je suis pas d'accord. Mais disons que c'est le moins pire à mes yeux pour un premier tour. Ceci dit, c'est pas la question. Je trouve qu'il est très bon sur les médias parce que c'est le seul qui intègre la notion d'économie des médias et qui explique bien que tous ces pseudos, il les met tous un peu dans le même sac. Mais ça, c'est ce qui me gêne dans un propos comme celui-là, c'est que il sait très bien qu'en attaquant les médias, il fait du poujadisme, etc. Donc il le fait un peu sans finesse. Mais où il a raison, c'est quand il parle des statuts des pigistes, etc. Il le fait sans finesse parce que par ailleurs, le dimanche suivant, il va aller chez Domoran. Il va aller chez Lapix, il va aller chez Claire Chazal, et s'il passe à TF1, il sera très content, quoi. Mais bon, il est dans cette posture-là, qui est un peu agaçante. Mais ceci dit, c'est le seul de tous qui a pas peur, quoi, qui y va et qui dit des choses très justes sur les médias et sur les journalistes, quoi.
Quand tu m'as croisé cette fois-là, que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Dans la version délinéarisée, c'est-à-dire dans le web documentaire, vous présentez ce travail d'une manière totalement différente,
ouais.
Avec plutôt une réflexion sur le journalisme aujourd'hui, avec pas mal de témoins. Les témoins, ça peut être les professeurs des élèves, ça peut être les élèves, ça peut être aussi des spécialistes que vous avez interviewés, qui donnent leur avis sur différentes questions. Je vous propose qu'on écoute certains des passages. On peut commencer avec Sarah, que vous pouvez commenter de la même manière. Sarah, vous lui posez la question, pourquoi veux-tu devenir journaliste?
Parce que je suis assez révoltée, en fait, à la base. Je suis assez révoltée dans mon caractère. Je suis assez rentre-dedans. J'aime bien... je dénonce assez facilement les choses qui me semble anormal, donc je pense que ça vient de là. Après, ça vient aussi du fait que je voulais un métier où j'étais pas derrière mon bureau tout le temps, même si certains journalistes restent derrière leur bureau, j'en ai déjà fait les frais dans certains stages. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on rencontre plein de gens, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait avant, enfin, dans un autre métier, Et voilà, et c'est des opportunités en or. Enfin, je pense que voilà, je serais déçu si j'arrivais pas à faire journaliste, vraiment quoi. C'est quelque chose qui te prend, qui te passionne. C'est, enfin moi quand je bosse une journée sur mes montages, ça me dérange pas quoi. Pourtant quand je faisais une dissert au lycée, j'en devenais folle quoi. Enfin, c'est après le... j'ai pas envie de faire de l'actu chaude, du flash, du machin, travailler sur BFM TV, tout ça. Là, ça me fait, enfin, je pense que ça me vraiment me fatiguerait, quoi.
Sarah, j'aime beaucoup Sarah, indépendamment de ce passage, parce que, en fait, ayant assisté au recrutement et tout ça, elle est vraiment passée de justesse, elle, parce qu'elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe, parce que quand elle est arrivée, on lui demandait ses modèles journalistiques, elle a dit PPDA ou Hervé Matou, le type qui présente le foot, donc elle n'était pas dans c'était pas Bourdieu et Chomsky quoi, et donc et pourtant elle avait une espèce de niaque et tout, mais moi j'ai pas participé,
dit je suis en colère,
ouais. Et alors ils l'ont pris, je crois que c'est la 16e à être prise, et puis elle y allait sur sa mère est femme de ménage, elle a eu du mal à lui payer ses études, et c'est elle qui a fait le web documentaire le plus intéressant, et elle a mis toute son énergie dans cette formation et elle a beaucoup appris en un an, et aujourd'hui elle travaille à France 3. Elle est pigiste, hein, puisque pour trouver des boulots, des piges irrégulières, et c'est une bonne journaliste. Enfin, je veux dire, elle a vraiment appris. C'est la preuve que cette formation est vraiment intéressante et qu'on peut amener des étudiants d'un point A à un point B en un an. Pas la peine d'aller au CFJ ou de passer 3 années à faire des stages à BFM et tout ça. Là, elle a beaucoup appris, mais parce que ça vient d'elle. Elle avait cette espèce de force en elle, quoi. Et voilà. Donc, ça fait partie des réussites, quoi, de cette formation.
Donc toujours dans cette partie, la fabrique du journalisme, cette partie du web documentaire, il y a un professeur qu'on connaît bien à l'Atelier des médias, puisque c'est le fondateur de l'émission, Philippe Couve, qui répond à la question « Comment s'enseigne le journalisme ?»
Moi, il y a 20 ans, quand j'étais à l'école de journalisme, l'exercice ultime, c'était de faire un journal école. Un journal école, c'était faire à la manière de. Donc on faisait un quotidien à la manière de Libération ou du Monde, on faisait un hebdomadaire à la manière de l'Express ou du Nouvel Observateur, on faisait un journal culturel à la manière de Télérama, enfin bon. Aujourd'hui, les étudiants, si on leur apprend à faire à la manière d'eux, on les envoie à l'abattoir. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas de reproduire ce qu'on faisait hier, mais c'est d'inventer ce qu'on fera demain. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut leur enseigner, c'est pas... Certes, c'est les fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'une information, comment vérifier une information, comment on s'assure d'une source, etc. Mais derrière, dans le traitement, dans la mise en forme, dans la diffusion et même dans la préparation du sujet, il faut aller sur des choses nouvelles. Il faut que eux-mêmes innovent. Moi, je suis pas capable de leur donner même, de leur dire, il faut faire comme ça. Je peux leur indiquer dans quelle direction ils peuvent chercher. Je pense que ce qui est le plus important dans le contenu de l'enseignement, c'est les questions avec lesquelles ils vont repartir. Il y a pas tant de réponses que ça à apporter. Il y a surtout des bonnes questions à se poser. Des questions, c'est comment je travaille, où est-ce que je fixe mes limites, quelles sont les choses que j'accepte de faire, quelles sont les choses que je refuse de faire, où je place ma limite, comment je me questionne avant de faire quelque chose. Je pense que là, s'il faut sortir d'une formation avec quelque chose, c'est ça.
Eh ben ouais, il a raison, c'était un bon professeur. Et c'est vrai qu'on est dans une période... où le journalisme, et on le voit bien à ses assises, là, est en perte totale de repères et d'identité. Et le constat que j'ai fait le premier soir, il y avait ce débat. J'avais l'impression d'être le seul à le faire. Mais d'ailleurs, dans Le Monde du lendemain, il y a eu un papier qui a dit à quel point la presse quotidienne régionale était dans une espèce de spirale catastrophique, quoi. Donc, on est au début d'un certain nombre de plans sociaux. Il va y avoir des milliers de licenciements ou de départs volontaires dans la presse de papier, quoi. C'est que ça soit les news magazines, la presse nationale ou la PQR, surtout, c'est la catastrophe, quoi. Puisque non seulement ils ne gagnent aucun lecteur, mais ils perdent entre 5, 6, 7% pour la PQR par année de lecteurs. Et vous savez, c'est la métaphore de l'avion. Quand un avion commence à perdre de l'altitude, il y a un point sur lequel il peut plus retomber et il se crache. Et j'ai bien peur que la PQR ce soit ça en ce moment. Et elle peut même pas remonter par le web parce que, ben, les modèles régionaux, il y a la gratuité. gratuité, il y a tout ça. Enfin, c'est un problème que je connais bien, donc il n'y a pas de solution pour l'instant. La solution, je pense effectivement, elle viendra d'Internet, mais après, pour trouver les modèles économiques, on les a pas encore trouvés, quoi.
Alors, l'heure tourne, on va devoir accélérer.
Ouais, surtout que j'ai un débat là avec mon fils.
Je voulais vous faire réagir à plusieurs autres extraits. On va juste terminer avec celui-là. C'est David Dufresne. Donc, c'est dans la partie théorème, hein, qui réfléchit justement sur les grandes questions. David Dufresne qui se demande pourquoi s'accrocher au papier.
Pour moi, dans mes usages, la presse papier a quasiment disparu. Je vais lire en papier uniquement ce qui n'existe qu'en papier. Le Tigre, Le Canard Enchaîné, Article 11, donc là-dedans il y en a deux, c'est des fanzines, qui ont une certaine notoriété, mais voilà, qui sont des publications totalement indépendantes, et puis il y a Le Canard Enchaîné. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas leur équivalent sur le net, ou en tout cas, bon, quand il y a l'équivalent sur le net, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un gros effort de papier. Les autres journaux, je ne vois pas l'intérêt d'aller les lire. Voilà, si Libé est là en papier, je le lis là. S'il est sur écran, pour moi, c'est la même chose. Pour ce qui est de la presse quotidienne généraliste, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est le vol plané, mais qui va mal finir, quoi. Il y a plus de carburant, quoi. Il y a plus rien.
David a raison. D'ailleurs, il a quitté la France, lui, à cause de ça. Il vit à Montréal. Il fait des web documentaires. Voilà, quoi. Mais il faut pas le vivre avec nostalgie, quoi. Le fait que, vous savez, moi, j'ai connu la PQR avec des journalistes notables qui étaient des gratte-papier du maire ou du président du conseil régional. Et c'est aussi ça qui a perdu le journalisme. Et donc, tous ces vieux barons de journalisme qui partent à la retraite, c'est pas plus mal, quoi. Après, la difficulté, c'est que les jeunes qui les remplacent, les types ont des salaires de ministres, et puis les mômes qui les remplacent ont des SMIG, et puis ils travaillent comme des, tu vois, c'est les Shiva journalistes, quoi, qui prennent le sang. Enfin, vous connaissez l'histoire, les esclaves de l'info, etc. Donc la difficulté, c'est de s'en sortir dans tout ça. C'est pour ça que j'essaie, moi, avec des amis, de créer un nouveau média, mais c'est pas évident, parce que les investisseurs que j'ai trouvés, ils vont pas mettre ça à fond perdu, quoi. Ils vont pas se dire, allez, je vais foutre 10 millions d'euros, puis on verra bien. Ils veulent, à un moment donné, que, au moins, même s'ils veulent pas gagner de l'argent, ils veulent pas en perdre, quoi.
Un média qui a pour idée d'être multirégional avec des correspondants dans toutes les régions.
C'est ça, c'est l'idée là, quoi.
Je voulais finir en vous demandant pourquoi vous peignez. Vous êtes plasticien, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai trouvé ce petit texte sur le site de votre galerie, la galerie W à Paris. On me demande souvent d'expliquer les raisons pour lesquelles je me suis mis à peindre. Là, je vous cite. Un de mes livres édités, publiés, distribués a été interdit à la vente. Il a été retiré des librairies, des Fnac, des Virgin, des points de vente, des gares. J'ai assisté à une scène Gare de l'Est. Des types prennent mon livre des mains de lecteurs et le rangent dans des cartons. Terminé. Ça a été un déclic. Interdit d'écrire. Il me fallait trouver un ressort, la peinture. C'est ça?
Ouais, c'est plus que la peinture, c'est une galerie. C'est-à-dire que dans une galerie d'art, on vient pas vous emmerder. Et puis j'ai eu une espèce d'idée qui m'a habité longtemps, qui était, j'avais été mis en examen pour recel de vol de secrets bancaires, puisque j'avais piqué ces fameux listings de Clearstream, et je les ai imprimés sur des toiles, et j'en ai fait des œuvres d'art, et des collectionneurs se les sont arrachés, mais ils sont vendus à des prix que j'aurais pas eu les moyens, moi, de me le payer. Et donc, et c'était une super idée. C'est-à-dire que, au-delà de l'anecdote et tout ça, c'était pas une anecdote. C'est-à-dire que pourquoi des collectionneurs achètent un tableau comme ça? C'est parce que il y a le langage froid et numérique de la banque. Et dessus, j'écrivais avec j'ai découvert les énormes marqueurs, en craie grasse à la peinture. Et j'écrivais avec rage. Et chaque toile est assez différente.
Des phrases du style, je ne diffamerai plus Clearstream.
C'était plus un joke. Mais il y a les grandes toiles, c'est autre chose, quoi. Et c'est vraiment des pièces uniques. Et donc, quand on les regarde, mon premier acheteur, c'est un Chinois de Miami qui lit pas le français. Et quand il a vu la toile, c'était une grande toile, il a compris, lui, qu'il y avait quelque chose entre la rage humaine, cette espèce d'écriture, et le langage froid et numérique de la banque. Et ça déclenche une émotion picturale, on va dire. Et si ça parle à quelqu'un comme lui, qui savait pas qui j'étais, ça a été formidable pour moi qu'il y ait un type qui achète une toile comme ça. Parce que je me suis dit, putain, Ça veut dire qu'il, lui, m'a compris au-delà de la culture. Il savait absolument pas que j'étais dans Clearstream, etc. Donc voilà, et ça a été le début. Et voilà, et j'en suis à ma, j'ai une expo normalement à la
que je prépare pour janvier, quoi.
Il manque plus que la musique, c'est ça?
Ouais, non, là, c'est rap. J'ai fait un rap, d'ailleurs. Voleur de foule. Ah ouais. Si vous allez sur Internet, vous tapez. Et c'est voleur de foule, voleur de... Comment c'est? Enfin, je sais plus. Vous le trouverez sur Internet.
Merci beaucoup, Denis Robert.
C'est moi qui vous remercie.
Vue imprenable sur la folie du monde, c'est aux éditions Les Arènes. Et le web documentaire Journaliste 2.0, le sous-titre, c'est...
Ah oui, enquête sur le néo-journalisme. Mais allez-y, parce que bon, il est gratuit, il faut en parler, il faut que ce savoir s'instille et que les gens comprennent aussi ce que c'est que le journalisme. Parce que souvent, on se rend pas compte, quoi. C'est une profession qui est super critiquée en ce moment. Mais et quand on regarde le webdoc, je pense qu'on a un autre regard. Et ça s'adresse aussi, parce que les cuisiniers, c'est toujours marrant d'aller voir comment ça se passe, une arrière-cuisine, etc. Mais il y a jamais rien à exister. On est les premiers à faire quelque chose sur l'arrière-cuisine du journalisme. On essaie d'expliquer ce que c'est qu'un journaliste. Et un journaliste, il faut jamais oublier que ça n'existe pas. Ça existe par sa carte de presse et par une espèce de volonté. Et après, il faut une formation, etc. Mais il y a quelque chose d'indicible dans le journalisme.
Et le web documentaire Journaliste 2.0, enquête sur le néo-journalisme, est à retrouver sur le site de France 4. On aura des informations complémentaires sur le site de l'Atelier des médias. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Merci.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 346 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon Decreuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org. Si vous souhaitez d'ailleurs rejoindre Mondoblog, le concours est ouvert jusqu'au 10 août. Vous pouvez aussi nous retrouver sur libiablog.org et arablog.org, notre toute nouvelle plateforme de blogueurs en arabe. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation, une entreprise et que vous souhaitez appuyer ou sponsoriser l'Atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail atelier@rfi.fr. Ce projet, l'Atelier et ses petits, Mondoblog, Arablog, Libiablog et l'Atelier Radio ont besoin de vous. Merci de votre soutien. Salut à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour une autre rediffusion d'été.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Bah, ça continue sur Internet.